impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé
« Près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Le port de la mer de glace, de Dominique Potard. Le meilleur livre de marine écrit sur la montagne. Une fantaisie où tout semble vrai. Les histoires de bistrot et l'ascension de la face nord des Drues, même si les méthodes d'assaut employées n'ont rien de classique. On assiste à l'irruption de Rabelais dans la littérature alpine. Cette effraction, Dominique Potard l'a fait sans appuyer, pour rire. À Chamonix, son public ne s'y trompe pas. Chacun recommande à chacun ce livre, ravi d'avoir découvert quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. Un livre à lire cul-sec.
Dominique Potard est né en 1955. Il est guide de haute montagne. Il découvre l'escalade aux dentelles de Montmirail, rocher dressé autour de la vallée du Rhône, pile entre Vaqueras et Gigondas. Des noms qui, sans aucun doute, marqueront son goût pour la grimpe et les meilleurs crus.
À Madeleine et Robert, le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal.
La mer de glace est un glacier du massif du Mont Blanc, un magnifique glacier de 7 km de long, 1200 mètres de large et 200 mètres d'épaisseur, qui avance inexorablement de 70 à 80 mètres par an, soit 8 mm par heure. Dépliant touristique du Mont-en-Vert. D'un point de vue géographique, l'appellation mer de glace commence au confluent des glaciers de l'Échaud et du Tacu, quand ceux-ci mêlent leurs glaces séculaires pour venir s'avancer jusque sous les parois abruptes des grands Charmoses et des Drues. À cet endroit, la formidable muraille des Drues domine la mer de glace de presque 2000 mètres de hauteur.
Ce nom original lui vient par l'entremise de deux Anglais, messieurs William Wyndham et Richard Pocock, en visite à Chamonix en 1741 et qui furent parmi les premiers explorateurs des Alpes.
Accompagnés de quelques indigènes, ils se rendirent au Mont-en-Vert, un belvédère situé au-dessus du village des Bois, d'où la vue sur la mer de glace est saisissante. Faisant allusion aux crêtes des séracs et aux plis tourmentés des crevasses, ils rapportèrent que le glacier évoquait à cet endroit un lac agité d'une grosse bise et gelé d'un coup. Le nom de glacier des Bois fut vite oublié pour celui plus exotique de mer de glace. D'innombrables touristes viennent chaque été à Chamonix pour voir ce glacier qui a acquis, grâce à son nom, une notoriété internationale. Un petit train à crémaillère permet aujourd'hui de rallier le Mont-en-Vert, altitude 1925 mètres, et de jouir sans fatigue d'un spectacle incomparable.
On raconte ici, à propos de ce nom équivoque de mer de glace, que deux touristes demandèrent un jour s'il était possible d'y louer des pédalos.
En entrant dans ce petit bar de Val-Misère, village oublié en amont de Chamonix, j'avais eu la très nette impression de sortir de ma trajectoire, de faire comme une sorte de pas de côté pour quitter la voie et ainsi échapper à l'ordinaire train de vie.
J'étais assez loin de me douter alors des conséquences irréversibles qu'elle allait entraîner cette concession d'apparence pourtant anodine à mon emploi du temps.
Le bar s'appelait le port de la mer de glace. C'était d'ailleurs ce nom qui m'avait attiré, comme un clin d'œil. Un nom original pour une fois, à deux pas de la capitale mondiale de l'alpinisme. Toutes dévouées au tourisme, où les enseignes commerciales se contentaient le plus souvent d'évoquer la beauté des cimes. Bar des glaciers, café des marmottes, brasserie des alpages. Échappant à la tradition, le port de la mer de glace, si l'on peut dire, n'était pas un nom bateau.
L'endroit était vide, hormis un petit gars aux cheveux crépus accoudé au zinc côté client. Ça avait l'air d'être le patron qui lisait le journal et qui n'avait pas accordé la moindre attention à mon arrivée.
C'est possible d'avoir un petit blanc ?
Silence.
Pas que ça à foutre.
Le ton ne supportait pas la réplique et je m'apprêtais à sortir lorsque j'entendis dans mon dos.
Ordinaire ou de sa voix ?
Le petit homme à cheveux crépus avait extrait son nez du journal et me regardait l'air en colère. On aurait dit Charlot, avec des lunettes mais sans moustache.
Alors ?
De sa voix.
Satisfait de ma réponse, il retomba dans sa lecture. La bouteille, c'est dans le frigo. Il y a deux verres sur l'évier.
Un peu décontenancé, je passais derrière le bar où tremblait un frigidaire moyenâgeux. Une bouteille de roussette à demi entamée y attendait son heure. Je servis de mon mieux deux verres sur le comptoir.
On fait pas dans le prêt-à-porter ici. Je suis pas à la veille de vous embaucher comme barman si vous me laissez des faux cols pareils.
Le patron attrapa avec fureur la bouteille de blanc et compléta les deux ballons à ras-bord.
Santé. Il leva son verre, le descendit cul sec et replongea dans son journal. Le décor du bar était on ne peut plus savoyard. Des filets de pêche couvraient les murs, garnis de homards, crabes et autres crustacés. Tandis que, à l'arrière du comptoir, des plans en coupe de bateau tapissaient les quelques rares espaces dégarnis de bouteilles.
« Femme de gendarme au pluriel et en six lettres, ça vous dit quelque chose ?»
C'était l'heure des mots fléchés. Inspiré par l'ambiance marine des lieux, j'avançais sans réfléchir une réponse pleine de délicatesse.
« Morue ?»
Cela n'eut pas l'air de choquer mon interlocuteur.
« J'y pensais, mais ça va pas, il y a un « A » en deuxième lettre. »
Le barman cherchait à haute voix dans le même registre affectueux.
« Salope, ça fait une lettre de trop. »«
Garce » hasardai-je gentiment.
« Ah, c'est pas con ça !» Son regard s'est éclairé. Il inscrivit les six lettres assassines sur la grille et passa derrière le bar.
« Ça s'arrose ?»«
Je peux ?»«
Allez-y, il est dur aujourd'hui. »
Je m'approchais du journal plié en quatre à la page des jeux.
Quelques mots étaient déjà écrits, dont celui qui fournissait le « A » de Garce. La définition en était « spécialité de Savoie ». Réponse « sardine ».
Vous êtes sûr de votre coup pour les sardines ?
La spécialité du port de la mer de glace, c'est les sardines.
Il vida le restant de la bouteille de roussette dans son verre et le but d'un trait.
Vous vous êtes perdu pour arriver ici à pareille époque ?
Tandis qu'il se saisissait d'une nouvelle bouteille, je lui confiais, avec une nuance de fierté dans la voix, que j'étais guide de haute montagne installé depuis peu à Chamonix.
Dans sa réponse, on était assez loin du sifflement admiratif qui accompagne en général ce genre d'aveu.
« Ah bon ? Métier de con, gagne misère ! Passer son temps à traîner des glandus au bord des précipices, qu'aurait mieux fait d'aller en vacances à la mer ?»
Le bouchon s'évada de la bouteille avec un pop de soulagement. Le patron trempa son majeur dans le goulot pour l'en extirper aussitôt d'un geste sec. Nouveau pop. Le vin plongea gaiement dans les deux verres.
Moi, c'est Gérard. Je tenais un rad en Bretagne avant d'atterrir dans ce trou. Les marins, c'est autre chose.
Il avala son blanc d'une seule gorgée. Nous contemplâmes en silence la grille des mots croisés. La définition du 1 horizontal était étrange. Mauvaise hier en 9 lettres avec le S de sardine en 5e lettre. Gérard s'était aussi concentré sur ce problème. Saisi d'une inspiration soudaine, il remplit les 9 cases avec fébrilité. Réponse : digestion.
Je sais pas ce que j'ai bouffé hier, mais c'est pas passé. Du coup, le 9 vertical devenait plus facile. Le mot commençait par le N de digestion et finissait par le E de garce. avec pour définition lumière céleste.
Le patron leva la tête, l'œil suspicieux, regarda l'éclairage de son bistrot comme s'il le voyait pour la première fois et inscrivit sans hésiter « Néon ». Le deuxième N de Néon et le E de Garce se retrouvèrent superposés.
« Il y a quelque chose qui va pas. Néon, c'est obligé que ce soit ça, » dit Gérard en montrant son plafond. « Mais Garce, ça doit être faux. »
Nous nous replongeâmes à la recherche de ces énigmatiques femmes de gendarmes. Vache, carne, tarte, tâche, traînée. Nous avions beau réfléchir à voix haute, le N de Néon rejetait toutes les hypothèses logiques. Les femmes de gendarmes nous barraient la route. Allez!
Catin!
Hé hé, Gérard exultait.
Bien y voyez!
Sassarose, tournée du patron. Il repassa derrière le comptoir et nous remit deux petits blancs.
Il était 10h30 du matin, Gérard aussi avait remarqué l'heure. Il servit deux autres blancs sur l'aile droite du bar. Dans la seconde qui suivit, la camionnette des Ponts et Chaussées s'arrêta pile devant la porte du port de la mer de glace. S'en extrayaient deux hommes en tenue de combat, orange fluo de la tête aux pieds. Un grand à moustache et un tout petit à moustache aussi, les deux la clope au bec. Des gestes télécommandés les conduisirent sans détour jusqu'au comptoir.
« Salut l'amiral !»«
Salut les branleurs !»
Ils s'installèrent avec application en face de leurs verres respectifs.
« T'as le journal ?»
Le patron tendit les nouvelles du jour au plus grand cantonnier.
Au passage, je lus machinalement le plus gros titre à la une. « La reine d'Angleterre se fait sucer en public. »
Je relus, incrédule.
« La reine d'Angleterre se fait sucer en public. »
C'était bien ça qui était écrit. Sur la première page, en gros titre, à côté d'une photo de la première dame d'Angleterre, l'air béat.
Les deux cantonniers esquissèrent un petit sourire. « Pas mal, pas mal !» commenta l'œil lubrique le plus grand.
« Tu peux l'afficher aussi, celui-là ?»
Son menton désignait le fond du bar. Au milieu des écrevisses et des oursins, un panneau couvert de manchettes de journaux punaisés, pêle-mêle, rappelait les derniers grands titres de l'actualité, révisés à la sauce plutôt salace du port de la mer de glace.
C'est qui celle-là ?
La question du petit cantonnier accompagna l'entrée dans le bar d'une petite dame, d'un certain âge et d'allure respectable. Elle s'assit discrètement à une table, où elle posa avec précaution son sac à main et une baguette de pain.
« Madame, que puis-je pour vous être agréable ?» s'enquit le cafetier sur un ton légèrement obséquieux.
« Un thé, s'il vous plaît. »«
Tu nous remets ça, docteur ?» Les deux cantonniers avaient déjà sifflé leur godet. « Tiens, voilà Clint Eastwood. »
Tandis que Gérard remettait une tournée aux employés de la commune, un étrange énergumène pénétra dans le troquet d'un pas décidé. Un grand échalas aux cheveux filasses qui se déplaçait à longues enjambées glissantes comme s'il faisait du ski de fond. On devait confondre ici les cow-boys et les indiens. Le dénommé Clint Eastwood avait tout de Geronimo.
« Je vais lui foutre un coup de fusil à la vieille » hurla-t-il en arpentant le bar, les bras au ciel. « Ça va pas traîner !»
Eu égard à son âge, l'unique représentante de la gente féminine présente en ces lieux avait légitimement sursauté.
« Ce n'est pas après vous qu'il en a, madame, » lui souffla Gérard en lui servant un thé. « C'est après sa grand-mère !»
Ça n'eut pas l'air de rassurer la doyenne de l'endroit qui se tassa sur sa chaise. Eastwood fit trois tours sur lui-même et ressortit dans la rue.
Le boulanger, qui officiait juste en face du port de la mer de glace, venait de traverser la route et franchit à son tour le seuil du bistrot, un informe chien gris collé à ses talons. C'était un solide gaillard, tout de blanc vêtu, l'air jovial.
« Tu sais pas la dernière ? » commença-t-il en s'adressant au patron du bar. Il ressortit aussi vite qu'il était entré, traversa à nouveau la rue sans regarder ni à droite ni à gauche, car un client attendait dans sa boutique.
« Va finir écrasé ce qu'on l'a, » commenta laconiquement Gérard.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor.
Au fait, les branleurs, lança le patron en se tournant vers les cantonniers, c'est samedi aujourd'hui, qu'est-ce que vous foutez en service ?
On est de garde, répondit le plus grand avec une nuance d'importance dans la voix.
Gérard le regarda d'un air incrédule. De garde ? Pourquoi faire ?
Si des fois qu'il neigerait.
Hein ? Au mois de mai ?
Les deux employés de la commune baissèrent la tête un peu déstabilisés. C'est déjà arrivé, hasarda le plus petit.
Alors, l'hiver, il n'y a pas moyen de vous voir passer le chasse-neige quand il y a 2 mètres de neige fraîche dans la rue, et là, vous êtes de garde pour déneiger en plein mois de mai avec un anticyclone de New York à Moscou ?
La réponse fut assez désarmante. L'hiver, c'est pas pareil. C'est pas de notre faute si on est à la bourre. Le chasse-neige, il démarre pas quand il fait froid.
Un instant scié par cet argument imparable, le taulier du bar retrouva son air goguenard. Ça doit être un modèle prévu pour la Guadeloupe.
Le boulanger était revenu dans le troquet, son chien toujours sur les talons. L'animal, museau en l'air, se montra soudain très attiré par les jupons de la vieille dame.
« Viens là, Toby, dit-il en s'adressant au cabot inquisiteur. Je t'ai déjà dit que les moules, c'est bon que quand c'était vrai. »
La finesse de son intervention illumina son visage d'un sourire rayonnant.
« Faut pas l'écouter, madame, » se crut bon d'ajouter le petit cantonnier qui attaquait son troisième verre. « Ici, c'est un bar de marins, un gégé. Plus ça sent la marée, plus on tend la gaule. »
Son acolyte explosa de rire.
« Silence, vous êtes dans un établissement respectable !»
Gérard, peu convaincant, tentait de sauvegarder la réputation de son commerce.
La pauvre femme se tassait de plus en plus sur sa chaise, la tête rentrée dans les épaules, une main crispée sur sa baguette de pain. Ce fut le boulanger, plein de bonnes intentions, qui se risqua à rattraper les choses.
« Hein, l'amiral, tu sais pas la dernière ?»
Gérard baissa la tête, certain du pire.
« Ce connard de pharmacien, depuis qu'il sait que j'ai baisé sa femme, il raconte dans tout le pays qu'il a trouvé une capote usagée dans mon pain. »
La vieille dame avait aussitôt relâché sa baguette, émettant un son inarticulé. Se produisit alors l'irréparable.
Gérard, excédé par les propos nauséabonds du boulanger, exécuta dans sa direction un geste de la main chargé de représailles. Chargé de représailles et surtout de maladresse. Ratant sa cible et emporté par son élan, la main vengeresse balaya en vain l'air du bar pour finir sa course folle contre le gros verre ballon que venait de commander le boulanger. Le verre bascula sur le comptoir, tandis que son contenu, d'un beau pourpre, profitait d'un effet de rebond pour s'envoler avec grâce à travers la pièce et, sans se départir d'une goutte, venir atterrir sur la jupe à carreaux or et gris de la dame au thé.
Il y eut dans le bar un instant de silence gêné, de courte durée. Une série de gloussements ne tarda pas à se faire entendre. Des fous rires mal contenus qui commençaient à agiter les affreux clients du port de la mer de glace. Incorrigible et toujours aussi raffiné, le boulanger glissa à voix basse à la cantonade autour du bar. « Les moules, c'est meilleur avec du blanc !»
C'en était trop. Le bistrot fut secoué par un terrible séisme jubilatoire.
« À la marinière !» hurla le grand cantonnier écarlate.
Gérard, qui, malgré tous ses efforts, y est encore plus fort que les autres, s'était précipité pour éponger les dégâts, se saisissant au passage du premier objet adapté traînant sur le comptoir. C'était le journal.
Dans l'hilarité générale, le bistroquier, animé de convulsions frénétiques, incapable d'émettre le moindre mot d'excuse, se mit à frotter avec fébrilité la malheureuse jupe souillée dont le rouge était largement devenu la couleur principale. La victime se laissait faire, les bras ballants, les yeux rivés sur la une du journal qui s'agitait sous son nez. La lecture du titre principal consacré à la reine d'Angleterre ne pouvait lui échapper.
Elle eut un brusque sursaut de dégoût, se leva d'un trait en écartant Gérard de la main et entreprit de traverser le bar, à petits pas, pour éviter de se mouiller davantage. La traversée de l'Atlantique en apnée n'aurait pu lui paraître plus longue. Quelques gouttes de vin, tachant le carrelage, accompagnèrent sa progression.
Le barman s'était mis à la suivre à la même vitesse, sautillant sur place comme un jeune chat pour éviter de la doubler.
« Mais vous sauvez pas, madame, on va mettre du sel. »«
Avec une pincée de poivre. »«
Et des échalotes. »«
Vos gueules ! Excusez-les, madame, ils ont aucune éducation.
Gérard la dépassa pour lui ouvrir la porte, se fendant d'une courbette respectueuse. Le port de la mer de glace a été enchanté de vous recevoir.
Continuant d'avancer comme un automate, la pauvre femme franchit enfin le seuil de ce lieu de perdition et disparut dans la nuit.
Vous oubliez votre pain dans le sale boulanger.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven.
Il pleuvait. Ce n'était que le matin, mais la rue principale de Val-Misère était sombre comme dans un soir d'hiver. Un homme en remontait le cours, ou quelque chose qui avait forme humaine, quelque chose d'aussi noir et sinistre que l'obscurité qui pesait sur le village. Sa démarche était étonnante, une sorte de balancement qui s'interrompait d'un seul coup, avec un petit claquement sec sur le bitume. Il n'y avait guère de doute possible. L'étranger qui remontait la grand-rue de Val-Misère portait une jambe de bois.
Sa silhouette laissait deviner qu'il était coiffé d'un chapeau tricorne, usage peu courant dans un canton de montagne. Flottant au vent orageux de la pluie, une grande cape noire complétait cet inquiétant tableau. La petite commune de Val-Misère était déserte, comme si la fin du monde s'était abattue sur elle. Seuls quelques chocards, de mauvais augure par ce temps, glissaient en silence au-dessus des maisons.
L'homme avançait d'un pas cahotant mais décidé, regardant droit devant lui. Il donnait l'indéfinissable impression de n'être jamais venu ici, mais de savoir très bien où il allait. L'eau était partout. Elle courait sur toute la largeur de la rue, plongeait en cascade des gouttières, ruisselait sur la cape de l'étranger. Il n'en avait que faire. Dans un éclair phénoménal qui déchira l'atmosphère sulfureuse de cette lugubre matinée, l'homme à la jambe de bois s'engouffra dans le port de la mer de glace.
Durant ce pluvieux mois de mai, j'avais pris l'habitude de venir boire un verre à Val-Misère à 10h30, l'heure du petit blanc.
Les clients du port de la mer de glace, à quelques dates au thé près, étaient toujours les mêmes et buvaient toujours la même chose. Du vin blanc jusqu'à midi, puis du vin rouge. Seul le boulanger avait droit au rouge avant midi pour cause de décalage horaire.
Le travail de Fernando l'amenait à traverser en moyenne 150 fois la rue de Val-Misère dans la matinée, soit à peu près l'équivalent de la population du village. Il partait vendre un pain, s'essuyait les mains dans son tablier et venait se rasseoir au comptoir du troquet. Son chien Toby, baptisé la Serpillière pour la qualité de son poil, toujours sur ses pas. Toby ne quittait son maître que pour satisfaire un besoin impérieux. Il divergeait alors invariablement vers la vitrine de la pharmacie qui jouxtait le port de la mer de glace. La scène était classique. Le pharmacien sortait illico dans une colère noire pour shooter le chien, la patte en l'air et le robinet tressautant. Les événements ayant pris une tournure plus véhémente depuis que monsieur le pharmacien avait pris connaissance des relations intimes qui rapprochaient le boulanger, propriétaire du chien fautif, et madame la pharmacienne.
Les deux cantonniers passaient tous les jours à 10h30, précise. Ils prenaient alors possession de l'espace du comptoir qui leur était imparti par une succession de gestes mille fois répétés dans un parfait ensemble. Et non, sans une certaine solennité. Tout d'abord, le paquet de cigarettes, des gauloises bleues. Posé à côté du verre, à sa droite, et le briquet posé sur le paquet, orienté dans la même direction. Puis, le tabouret de bar. D'un geste de repli assez technique de la cheville droite, glissé sous les fesses, tandis que le coude gauche se calait sur le zinc. Enfin, la main droite qui venait se saisir du verre de blanc, sans en renverser la moindre goutte, pour l'amener jusqu'aux lèvres, déjà pointées en cul de poule, avides comme des éponges. Un léger battement de paupières accompagnant la première gorgée clôturait le cérémonial. C'était bien plus qu'une scène ordinaire de libation. Il y avait du devoir là-dedans.
Malgré tout, sur cette sorte de météorite détachée des conventions humaines qu'était le port de la mer de glace, le personnage le plus pittoresque, le plus cosmique, qui ne pouvait manquer d'impressionner l'astronaute de passage, était le dénommé Clint Eastwood. Il devait avoir une trentaine d'années. Il avait construit autour de lui un monde étrange qui n'avait plus grand-chose à voir avec la réalité que l'on connaît et qui dépendait d'une série de règles obscures que lui seul avait expérimentées. Par exemple, on doit toujours choisir la solution de gauche. Précepte dont l'application immédiate consistait à tourner toujours à gauche. Ainsi, en sortant du port de la mer de glace, partait-il systématiquement vers le bas, à gauche donc, même si sa maison se trouvait en haut du village, sur la droite.
Autre principe essentiel, on ne peut avancer vers la lumière qu'en tellurique. Terme générique dont la manifestation la plus visible était de marcher pieds nus.
Tantôt, Clint Eastwood buvait comme un trou, que du rouge, c'était sacré, et quittait alors systématiquement le bar en disant qu'il allait assassiner sa grand-mère à coups de hache. Tantôt, il traversait une période molincale où, lors de ses rares passages au port de la mer de glace, on le voyait se contenter d'un petit café noir qu'il savourait en parlant tout seul à voix haute.
Certains esprits médisants prétendaient que Clint Eastwood était complètement timbré. C'était, selon Gérard, bien mal le connaître et accorder à des petits détails de comportement une importance exagérée.
Pour Fernando, c'était tout simplement le fou du village.
Ce fut à l'automne que les événements prirent une étrange et inquiétante tournure. Après un été passé à courir l'Alpe, j'avais retrouvé, non sans un certain bonheur, les petits matins résonnants du double pop du port de la mer de glace.
Ce jour-là, l'amiral, après quelques verres, se laissait volontiers aller à des élans philosophiques. « C'est ça la magie des bars. Tu sais jamais qui va entrer. La porte est ouverte à tous. T'es là à boire ton petit canon bien tranquille. Tu peux voir débouler n'importe qui. Tu sais pas. Tu sais jamais. C'est comme à la loterie. Tu sais jamais. »
La fin de son discours se perdit dans un terrible fracas. En même temps que la porte du bar s'ouvrait, un violent éclair transperça la nuit. Les effets secondaires du petit blanc prenaient une tournure dramatique.
Assommés, persuadés d'être victimes d'une hallucination collective, nous observions le nouvel arrivant, non comme un extraterrestre, ce qui aurait été en comparaison assez banal, mais comme un extratemporel, car cette chose-là venait tout droit d'un autre âge. Non seulement il portait une jambe de bois, un chapeau à trois cornes décoré d'une tête de mort, mais aussi l'inévitable et tressaillant bandeau de borgne sur l'œil droit.
Tout à fait à son aise, sa jambe de bois claquant sèchement sur le carrelage, l'étranger traversa le troquet d'un pas cahotant, mais indétournable, et vint s'installer à l'autre bout du comptoir.
« Un double rhum, manant !»
Le ton n'incitait guère à la réplique. « J'aime ce silence quand je rentre, ha 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 !» Le port de la mer de glace. Taverne du diable, oui. Et c'est toi qui parles de la mer de glace ici ?
Son regard s'arrêta sur Gérard.
La connais-tu seulement, la véritable histoire, hein ? Même à tourner, taulier de Basse-Fosse.
Il s'était approché du petit groupe de statues que nous formions avec Fernando et Clint Eastwood. Nous pouvions à présent mieux voir son visage incroyablement balafré. Son œil unique courait de l'une à l'autre, avec la vivacité de l'éclair nous pénétrant comme un couteau.
Cela s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, tout près d'ici. Il siffla d'un geste son deuxième verre. Écoutez, écoutez-moi bien.
Il extirpa brusquement son sabre, pourfendit l'air au-dessus du comptoir et l'arrêta net sous le menton de Gérard.
Surtout toi! L'amiral présentait déjà tous les symptômes de la mort clinique, où il t'en cuira.
Rengainant habilement son arme, l'homme commença son récit d'un ton hypnotique. Au port de la mer de glace, le temps s'était comme arrêté. L'invraisemblable naufrage. Nous remontions la mer de glace, vent arrière. C'était Trompe-la-Mort qui tenait la barre, un fameux marin, Trompe-la-Mort, qui avait affronté sans trembler toutes les mers du monde, échappé aux plus terribles ouragans. Ceux qui avaient survécu à ses côtés racontaient qu'il barrait en chantant au cœur même de la tempête et que son rire dément courait sur le pont plus fort que tous les rugissements de l'océan. Il a fallu qu'il vienne se perdre sur cette mer de malheur. Paix à son âme. Elle était calme, la sorcière, au début, juste un peu de clapot avec une bonne brise du nord. Nous naviguions en plein en son milieu, là où l'allure était la plus portante. Je me souviens que Trompe-la-Mort m'a demandé si j'avais pris la météo. C'était la première fois que je le voyais inquiet, comme s'il sentait son heure arriver. La météo était mauvaise, très mauvaise. Avis de coups de vent du sud-ouest, force 9 à 10 dans l'après-midi. Force 9 à 10 sur cette maudite mer, il y avait de quoi effrayer même un gabier de la trempe de Trompe-la-Mort. Si jamais, quand ça arrive, on n'a pas doublé le cap du requin, Trompe-la-Mort avait raison, ça serait le demi-tour forcé, ça nous viendrait droit dessus. Comme un sombre présage, des mouettes noires piaillaient sur la côte. 2 heures plus tard, nous n'étions plus qu'à 1 mille du cap du requin. Cette chienne de mer avait grossi, des lames énormes barraient l'horizon. Mer de malheur! L'empannage pour croiser le cap allait nous envoyer au diable!
L'homme, à la jambe de bois, avait brusquement haussé le ton. Il se redressa poing en l'air. « On meurt de soif dans ce rade de misère !» Je fis signe à Gérard de remettre une tournée. Le pirate me gratifia d'un coup d'œil électrique. Il reprit son histoire, toujours la main levée, son visage se creusant avec une intensité dramatique dans la flamme vacillante d'une bougie.
« Je n'étais pas tranquille, il y avait le diable qui tournait par là. Vous m'entendez, le diable ?» Le grain qui fonçait sur nous du fin fond du golfe du géant était terrible. Son poing s'abattit violemment sur le comptoir, nous faisant sursauter d'épouvante.
Toby s'était mise à hurler à la mort sous la table. « Silence, chien de malheur !» D'un seul coup, le vent a tourné. On s'est retrouvés par tribord auprès, avec la houle contre nous. « Bon Dieu !» a gueulé Trompe-la-Mort, « virons de bord !» Ça y était, cette saloperie de grain était sur nous. Toutes voiles affalées, on s'est mis à dériver plein nord. Le diable, vous entendez? Le diable! On n'a eu le temps de rien faire. J'ai vu une dernière fois Trompe-la-Mort. Il avait lâché la barre et battait l'air à grands coups de poing hurlant. Arrière, Satan! Une vague énorme s'est abattue sur le gaillard d'avant. Crac! D'un mouvement du bras, le compteur avait balayé tout ce qui était à sa portée sur le comptoir. Verre, chandelier, cendrier. Il y eut un grand fracas dans le port de la mer de glace et nous nous retrouvâmes dans une presque totale obscurité. « Deux hommes à la mer !» rugit le pirate. Emportés par le récit, nous nous étions tous retrouvés accrochés aux barres comme pour échapper à la lame qui venait de balayer le comptoir. « Bon Dieu, quel froid !» L'œil unique du naufragé lançait des éclairs dans la nuit. Elle portait bien son nom, cette satanée mer de malheur. Il se tut un instant. Quand je suis revenu à la surface, il n'y avait plus de bateau, il n'y avait plus de Trompe-la-Mort, tout par le fond. L'homme observa un nouveau silence comme en mémoire du disparu et reprit son histoire sur un ton presque humain. Alors, j'ai nagé pour me réchauffer, mais les vagues étaient de plus en plus grosses. Pas moyen de respirer, pas moyen de garder la tête dehors. Je sais pas combien de temps j'ai roulé comme ça dans cette flotte gelée. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, mille tonnerres, j'ai vu le phare du Mont-en-Vert. À quelques encablures juste devant moi, ça m'a redonné des forces, je gueulais comme un putois et brassais l'eau comme un démon. Ah ! Il poussa un cri guttural qui nous glaça les sangs et nous ramena aussitôt dans les sphères cauchemardesques. Une lame monumentale s'était dressée devant moi. C'était ma tombe ! Ma tombe, vous entendez ? J'étais foutu ! C'était tout ce que je me rappelle ! J'étais foutu ! Le narrateur regarda à la ronde, se saisissant de son 3e verre de rhum qui avait miraculeusement survécu au raz-de-marée pour le descendre de la même manière.
Il y eut un silence angoissant. L'homme baissa la tête. Nous allions savoir si nous avions affaire à un fantôme vivant ou mort. Émise sur un ton parfaitement monocorde, la fin de l'histoire fut à la mesure de son contenu. Quelques jours plus tard, des touristes se promenant sur la mer de glace ont retrouvé au fond d'une crevasse le corps d'un homme avec un ciré jaune et des bottes en plastique. L'homme s'était à nouveau tué. Nous n'étions guère plus bavards. Il dut prendre notre mutisme abasourdi pour de l'incrédulité. « Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas » hurla-t-il soudain. Son unique œil terrible se mit à balancer des flammes. « Eh bien, regardez ça !» Il extirpa de sa poche un morceau de journal tout fripé, jauni par le temps, et nous le tendit sous le nez, la main tremblante d'émotion. « Lisez, tas de mécréants ! Eh bien, lisez si vous ne me croyez pas !» Il semblait hors de lui. Nous serrant les uns contre les autres, nous nous mîmes à examiner la coupure de presse. Le titre en était explicite. « Macabre et étrange découverte sur la mer de glace ». Accréditant l'invraisemblable récit de l'homme à la jambe de bois, l'article racontait par le détail comment des touristes étrangers de passage à Chamonix et se promenant sur la mer de glace avaient fait cette lugubre rencontre. L'affaire s'était passée quelques 10 ans plus tôt, le 15 novembre exactement. Il y eut un très très long silence. Savourant sa victoire sur l'improbable, le pirate promenait son regard monoculaire de l'un à l'autre avec un sourire ironique, découvrant l'architecture féodale de sa dentition.
Les deux cantonniers sortirent sans demander leur reste. Très concentré, Clint Eastwood lisait et relisait l'article en marmonnant. « Je le savais, je le savais !» Clint Eastwood s'était levé d'un coup, l'air illuminé. Il comptait sur ses doigts. « Ça fait exactement 111 lunes. Ah ah ah, je le savais, c'est maintenant !» Et il sortit précipitamment. La porte claqua dans son dos tandis qu'il emboîtait la grande rue de Val-Misère, côté amont. C'était la première fois que je le voyais partir de ce côté-là, c'est-à-dire à droite.
Les habitués du port de la mer de glace dans l'ascension de la face nord des Drues, terrible escalade. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.